hasn't been avoiding me.
Et vous voulez dire, on va pas se mentir, hein? Je sais que tu m'en veux.
Mais tu te rends pas compte, c'est l'enfer de les voir défiler. Tous ceux qui remplissent pas les critères. Une vie pas possible, qui arrive pas à s'adapter.
Moi, j'essaie de comprendre. Je trouve ma place là-dedans.
It's a damn proud.
Radio FMR 89.1 MHz, les chroniques vagabondes de Radio FMR avec Lady, avec Jindou. Jindou, les rencontres cinéma, ça se passe à Jindou, c'est à la campagne. Ce sont les 26e rencontres, c'est jusqu'au 28 août. Nous sommes le 28 août, c'est donc la dernière chronique de cette semaine. On s'est retrouvés tous les jours à midi. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir à côté de moi sur le site de Jindou, en direct donc, Philippe Etienne, qui est un des directeurs artistiques de ces rencontres cinéma de Jindou, et Jacques Mitch, réalisateur toulousain, et dont il y a eu la programmation de courts-métrages hier au soir dans ce cinéma de verdure, qui est un site majestueux et magnifique. Bon, alors, Philippe Etienne, nous sommes samedi, c'est la fin presque de cette édition 2010. Mais peut-être un premier bilan, un premier ressenti de cette semaine, avec la fatigue en plus par rapport au week-end précédent, mais en même temps, je crois, beaucoup d'enthousiasme, de passion et une très belle fréquentation.
Oui, alors, bon, une très très belle fréquentation, une fréquentation qui est en nette hausse, bien entendu, parce que je crois que le choix des parrains, Herman Sissako, a rencontré l'écho. En tout cas, a fait résonance dans le public, puisque toutes les séances qui étaient consacrées à ces films, ainsi que à Jafar Panahi, qui était finalement un double parrainage, ont été chaque fois débordées. C'est-à-dire, on a une jauge de 200 places et on a dû rajouter des bancs pratiquement à chaque séance. Donc ça, déjà, c'est depuis 2006, je crois, ou 2005, et la venue d'Ottario Ciliani, on a très bien compris un petit peu quel était notre rôle lorsqu'on donne la parole à un parrain, lorsqu'on rend hommage à un cinéaste, et on voit bien que c'est une rencontre réelle à travers les films, à travers le témoignage et les rencontres avec le cinéaste. Donc ça, c'est très bien, surtout que Abderrahman Sissako, on prêtait au jeu, hein, de la rencontre, et la dernière fois qu'il a présenté son programme, c'était jeudi dernier, et les gens ont été absolument bouleversés. C'était après le film La Vie sur Terre. Voilà. Alors Jafar Panahi n'est pas venu, et je pense que tout le monde sait pourquoi il n'a pas pu venir. Bien entendu, il était invité. Bien entendu, il a eu les échos de la fréquentation et de ce qui se passait ici à Jindou. Il nous a envoyé des mots vraiment très très sympathiques. Voilà, donc ça, c'est une chose. Ensuite, au niveau des vagabondages, il y a une diversité qui se confirme dans ce que nous proposerons. C'est-à-dire qu'il y a des débats, il y a souvent des débats d'ailleurs, il y a eu des débats accrochés, hein. Mais c'est bien, je crois que si ici on est en espace de parole qui complète l'émotion, les visions des films que l'on peut avoir. Donc là, pour moi, c'est une des éditions les plus riches que nous avons eues ces dernières années. Et qui plus est, bon, alors avec la fatigue en plus, effectivement, parce que ce n'est pas 8 nuits, mais 9 nuits que nous allons faire. Nous allons démarrer la 9e nuit, bientôt, et 8 jours. Donc c'est quand même très très long comme festival. Et on a eu quelques petits problèmes d'intempéries, pas grand chose, mais en fait c'est surtout la chaleur qui a été accablante à certains moments. Quoi qu'il en soit, je crois qu'on va dépasser la jauge en fin de que l'on avait habituellement, et avec la centaine d'invités que nous avions, on a une très belle manifestation. Et puis surtout, je voudrais rajouter, si j'ai 2 minutes, on a tenté des choses, c'est-à-dire par exemple, on a tenté non pas de passer un court-métrage, mais la lecture d'un scénario de court-métrage accompagné par un quatuor qui avait travaillé en résidence ici. Donc c'est une sorte d'objet insolite là, comme ça, que nous avons proposé aux spectateurs. La salle était bondée, hein, c'est 700 personnes ici, c'était assez marrant quand même comme petite chose, quoi. Et puis aussi, pendant le festival expérimental, on a également, à la demande du programmateur Michel Amarger, on a également fait des improvisations musicales. Voilà, des petites choses comme ça qui donnent un petit peu de sel s'il en fallait encore.
Alors bon, Jeanne Doux, c'est un label. On ne connaît pas forcément et même souvent pas du tout les films qui sont programmés. Il y a un nombre croissant d'avant-premières, ce qui est quand même une belle reconnaissance de la profession et puis de cinéastes qui vous confient leur film. Parmi les avant-premières et le programme de cette année, est-ce qu'il y a quelque chose, un film qui a particulièrement retenu votre attention, Philippe ?
Oui, tout à fait. Alors, bon, il y en aurait plusieurs, bien entendu. Moi, j'ai noté, mon coup de cœur, c'était le film de Jean-Paul Sivérac, Des filles en noir. Film de fiction où je découvre, en fait, le cinéma de Jean-Paul Sivérac. Je trouve qu'il caresse les personnages. Il y a quelque chose de baroque dans la façon dont il procède, et puis il y a une pudeur, une très grande sensualité dans ce qu'il fait. Le thème en plus est un thème très délicat, puisqu'il s'agit du suicide des jeunes filles, et qu'il traite vraiment, il est sur le film, mais il est toujours du bon côté du film. Moi j'ai ce film-là, et puis il y a le témoignage de Raed dans son documentaire que nous avons passé, qui s'appelle Fix Me, c'est un film aussi qu'on avait vu à Cannes dans la sélection Acide. Raed est venu de Palestine pour le présenter, et aussi c'était un film qui était très très fort. Il y en aura d'autres, hein, à voir bien entendu, mais pour moi c'est deux films déjà que je peux noter.
Alors sur le programme de ce soir, est-ce qu'on peut présenter qu'est-ce qu'il y aura au menu de ce soir samedi, puisque bon, il y a des rituels sur Jeanne Doux, hein, le vendredi soir c'est la soirée de la carte blanche à Cinémathèque, le samedi soir c'est la nuit, c'est parce que bon, généralement les soirées déjà se terminent vers 2h du matin, c'est-à-dire qu'il faut, voilà, on s'installe pour en général dans la soirée il y a un ou deux cours et puis deux films de long métrage, hein, voilà, ce qui amène la soirée jusqu'à 2h, 2h30. Quand il faisait très chaud, c'est très agréable. On a une petite fraîcheur qui arrive à la fin. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même une présence, une belle présence, un public très, très ciblé. Et aussi un public qui s'adapte aussi à la sensibilité de chaque soirée. Ça brasse une population locale, des cinéphiles, des jeunes, des générations un petit peu mélangées, des gens du Lot, beaucoup de gens de Toulouse. Hein. Ça, c'est clair qu'il y a un engouement, il y a un lien très fort avec Toulouse. Et donc ce soir, cette nuit à Jeanne Doux, quelle couleur elle aura ?
Alors d'abord, elle aura pratiquement une couleur locale parce que nous allons passer un film, un long métrage de Renaud Félix que nous connaissons ici pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a été assistant d'Yves Comon, notamment sur le film qu'il a tourné Cache-Cache dans le Lot, donc on l'avait rencontré à cette occasion-là. D'autre part parce qu'on lui a confié un travail de réécriture dans le cadre d'un atelier. Dans le cadre du concours Le Goût des Autres, et Renaud Féli habite à Limoges, et donc ce sont quand même des voisins. On va retrouver d'ailleurs des paysages proches de ceux du Lot dans le film que nous allons voir, qui est une histoire un petit peu insolite. C'est une histoire qui se déroule à la campagne, donc on est presque dans la thématique que nous avons que la Cinémathèque de Toulouse nous avait élaborée. Et c'est une sorte de personnage comme ça qui s'apprivoisent petit à petit. On sent qu'ils ont une blessure interne qui n'est pas la même. C'est une rupture amoureuse d'un côté et puis un rapport au père qui est différent. Et ces deux personnes-là vont se joindre et on est heureux qu'ils se joignent l'un et l'autre. Ça se déroule vraiment dans des paysages avec une nature quand même qui est insensée. C'est un c'est un premier film. C'est une très belle c'est une très belle première expérience pour ce cinéaste. Ensuite, je vais pas décrire tous les films. Nous, on a le principe pour La Dernière Nuit de mettre un film qui soit un film qui booste les gens. Alors l'an dernier, c'était un film extrêmement érotique que nous avions on cherche tous les moyens, hein, n'est-ce pas, pour que les gens restent éveillés. Il y a eu des films d'épouvante, il y a eu des films de musique avec les Village People par exemple, et cette fois-ci c'est Sound of Noise. Sound of Noise, c'est une avant-première. C'est une avant-première d'un film où il y a des attentats musicaux dans les villes. Voilà, donc c'est un film très péchu, comme on dit, pour commencer à déguster à partir de 4h du matin.
Bien. Et puis il y a le petit déjeuner qui suit. Enfin bon, c'est tout un rituel. C'est la nuit blanche. La nuit blanche sur écran noir. Voilà, c'est bien. C'est vrai que on avait évoqué au cours de cette semaine avec les acteurs un peu de Jindou, l'historique de Jindou, l'évolution de Jindou, la phase où on est passé de la petite cour de l'école à ce grand cinéma de verdure. Et beaucoup ont retenu que vous aviez pérennisé avec le cinéma la même convivialité, la même authenticité. C'était pas gagné forcément d'avance parce que l'outil était impressionnant, hein. Et on retrouve les coussins, les duvets, les gens, le contact entre les gens qui est si précieux ici.
Oui, oui. Alors c'est très étonnant parce que ça me fait penser à une chose, c'est que le dernier film de la dernière nuit que nous avons passé dans la cour de l'école, où on avait demandé d'ailleurs aux gens, on l'a immortalisé par une photo, de dire au revoir à la cour comme ça, et Nelly Blaya avait fait une photo que nous possédons, c'était bondé. En fait, le dernier film, c'était La Nuit des Morts Vivants. Alors je me demande inconsciemment s'il n'y a pas à rechercher, je sais pas, puisque ces gens qui se réveillent. Et en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à voir dans la psychanalyse ou dans l'inconscient, puisque on nous avait prédit effectivement que pas la mort de Jindou, mais en tout cas le changement d'une mentalité, d'un esprit, ça n'allait plus être pareil. Alors ce n'est plus pareil, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on voit mieux les images et qu'on entend mieux les sons. C'est ce que l'on recherchait. Et je sais pas, il faudrait voir quelque chose par rapport à la signification de cette programmation-là. Voilà, ça me fait penser à ça.
Merci Philippe Etienne. Bon, on va poursuivre avec chaque mythe, mais Philippe, je voulais te proposer, on se tutoie, de présenter Jacques et la présence de Jacques, parce que je crois que entre cinéastes, tu es le mieux placé finalement pour présenter. Bon, Jacques, on se croise depuis des années à Toulouse, et je vais laisser la parole à Philippe, et puis après on va parler des courts-métrages et puis des projets de Jacques.
Alors très très rapidement, en fait, moi j'ai découvert Jacques parce que moi j'étais à l'école de cinéma de Toulouse, en fait, et c'était un petit peu dans le paysage audiovisuel toulousain, je dirais. Mais quand je dis toulousain, ça veut dire des gens qui ont décidé de rester sur la région toulousaine, hein, et qui ont bien sûr un rayonnement bien au-delà de la région. C'était le cinéaste un petit peu phare. Et ça le reste, enfin, il faudrait demander mais c'est vrai, enfin, moi, Herman Henzel, par exemple, on l'a projeté à l'école d'audiovisuel. Il y avait, je me rappelle très bien, par exemple, Bonjour, je vais à Toulouse, ce film-là. Et donc, on avait comme ça, et peut-être, hein, alors je vais lui dire ça, voilà, j'espère que. Mais je pense qu'on avait, on se disait, il y a la possibilité de faire du cinéma à Toulouse. Voilà, et ça, c'est un message assez fort qui était. On avait envie de ces paysages que l'on a là, on n'avait pas envie de s'expatrier sur la région parisienne, on sait très bien qu'il le faut pour des questions de production. Mais par contre, ça donne un espoir, c'est-à-dire vivre et travailler au pays, et dans le cinéma, c'est possible. Voilà, je dirais simplement ça sur Jacques.
Merci Philippe. Ben Jacques, donc belle présentation. Moi personnellement, j'ai l'impression de vous avoir toujours vu à Toulouse, dans les temps forts de cette ville. Je peut-être un peu égoïstement, je vais parler de la création de Radio FMR, et je sais que vous étiez là, vous étiez sur des soirées, vous étiez là sur des autour de nous. Je sais que vous étiez là. Par ailleurs, dans votre équipe, il y a des gens, des amis, des comédiens comme Pierre-Maurice Nouvel, que je connais bien. Moi, j'étais au lycée avec lui, à Figeac, voilà, par exemple. Bon. Et puis, voilà, toute cette ambiance, finalement, moi, je trouve que vous faites partie de notre histoire à Toulouse, de notre histoire de la culture à Toulouse, et de ce grand mouvement qu'il y a eu depuis les années 80. Je crois qu'on peut dire qu'on fait partie de la même famille générationnelle aussi, quoi. Voilà. Jacques Mitch, bonjour, et je vous propose de réagir à ce qu'il vient de se dire et de nous parler un peu de votre travail de cinéaste, de votre parcours.
Oui, en vérité, je suis un survivant de l'époque des années 80, quoi. Enfin, à Toulouse, j'ai vécu, c'est vrai que c'était la grande époque, pour moi, c'est la grande époque du rock des années 77-80, le mouvement de punk, quoi. Enfin, je sors de là, quoi. Voilà. D'ailleurs, le dernier film que j'ai présenté à Fumel, c'était Fumel de feu, de fer et de rock. C'est sur les Ablettes, le film était écrit avec Philo Fournier, le chanteur des Ablettes. Et ce film-là retrace un peu toute l'histoire du rock à Chumel et ailleurs, quoi, voilà. Donc,
On avait organisé à Toulouse le premier, concert des Ablettes au bar Le Regalti. Je pense qu'on y était tous là.
Voilà, et à cette époque-là, moi, je faisais pas de cinéma, je faisais de la photo. Et après, j'ai bénéficié, en vérité, on en parlait hier dans la tchatch, de la décentralisation folle qu'il y a eu en 1981-82, avec la possibilité de... Enfin, la création des ateliers Assias Cavagnac, quoi. Puis il y a eu la création des AV aussi, comme de cinéma à Toulouse. Et puis, puis il y avait la Cinémathèque. Et puis, enfin, moi, j'ai bénéficié de tout ce petit nid culturel, créatif, quoi. Et puis moi, qui avais fait des études de biologie au départ, je me suis retrouvé à faire du cinéma, pas par hasard, parce que j'étais quand même un cinéphile averti, quoi. J'allais beaucoup au cinéma. Et puis voilà, ma vie a changé à ce moment-là, quoi. C'est assez marrant quand on retrace un peu le parcours, quoi. Voilà.
Bon, je pourrais presque dire la même chose, hein. Moi, je faisais des études de droit, j'étais pas du tout, et puis on a fondé Radio Éphémère, et puis c'était le rock qui nous animait, cette fibre, le rock, les punks, on organisait les premiers concerts punk, les garçons bouchés, les Rita Mitsouko, toute cette affaire avec le bikini, toute cette mouvance-là. C'est vrai que c'était les années 80, au niveau de la culture, on peut dire ce qu'on voudra, mais c'était les années Jacques Lang, bien sûr, les années Mitterrand, c'était des années quand même de soutien à la culture, qu'on est loin d'avoir aujourd'hui et qui, pour l'avenir, ne se profile pas de la même manière. Alors, bon, le travail de photographe vous a conduit à un engagement de cinéaste sur des formes, alors des courts-métrages, des thématiques, des histoires qui sont un peu, qui utilisent à la fois des ressorts de l'absurde, une dimension surréaliste, un peu poétique, et puis en même temps quelque chose qui a un lien proche avec le monde rural malgré tout. Si on cite, bon, il y a ce cours là, Herman Henzel, ornithologue, qu'on a vu hier au soir. Là, c'est quelqu'un qui vit dans Gers, c'est qui est passionné par les oiseaux. Mais ensuite, vous avez proposé aussi Jour de chasse, où on voit le président des Rencontres Cinéma de Gendou, Guy Cavagnac et son frère dans un rôle vraiment incroyable de chasseur totalement insolite. Ouais, c'est très très drôle, hein, et très bien capté. Alors pourquoi ce lien? Pourquoi vous choisissez ce monde rural et comment les histoires que vous racontez, vous prenez les ressources où et qu'est-ce que si vous deviez les définir?
C'est difficile, mais bon, ce que je fais moi, ça me ressemble, c'est-à-dire c'est mes centres d'intérêt. Après, moi, j'ai pas de référence ailleurs que dans moi-même, quoi. Même après, si j'ai quelque part, j'ai beaucoup aimé Jacques Tati, j'ai beaucoup aimé. Après, j'essaie de poser mon regard un peu décalé sur les choses, en racontant un peu je sais pas moi, Herman Henzel, un ornithologue. J'ai fait ce film parce que Guy Cavagnac était en train de produire La Campagne de Cicéron, qui a été projeté hier soir. Et moi, j'avais fait trois petits films avec lui, des portraits. À l'époque, ma spécialité, c'était de faire des petits portraits. Et Guy Cavagnac me dit, en revenant du tournage, il me dit, j'ai rencontré un personnage extraordinaire, Herman Henzel, qui est ornithologue, qui devrait faire son portrait, je te le produis. Ouais. Et alors bon, moi je suis allé voir Herman, et puis j'ai fait le film, et en même temps, j'avais eu un prix avec Alain Lasserre Tactique Dernier, c'est un autre portrait. Et Canal Plus m'offrait la possibilité de faire un court-métrage de fiction avec le prix que j'avais eu. Donc, c'était au mois de juillet. D'ailleurs, c'était à Grenoble, au Festival de Grenoble. Et donc, au mois d'août, j'ai écrit un scénario au mois d'août. Les Jours de chasse, c'est une histoire que mon père m'a racontée. Et j'ai écrit un petit scénario de 10 minutes et je l'ai réalisé en novembre. À l'époque, ça allait très vite parce que Guy Cavagnac avait les ateliers de Cervantes. On avait les moyens, il y avait de l'argent pour payer la pellicule, pour payer les tournages, du matériel, c'était formidable. Voilà. Et après, tous ces... après, j'ai eu de la chance et puis mes films ont bien marché, on va dire. Donc, je me suis retrouvé au César avec Arnaud Menzel, ornithologue, quoi. C'est assez, pour moi, c'était surréaliste, quoi.
Et sur la forme court-métrage, long-métrage, on fait toujours la comparaison entre la nouvelle et le roman, et souvent une histoire de moyens ou pas, mais pas seulement, je crois qu'il y a un choix aussi de cette forme-là. On voit bien dans l'histoire de Jour de chasse que trop développée, elle n'aurait pas la même intensité, parce que bon, c'est l'histoire de deux chasseurs... qui sont assez improbables, qui ont tout l'attirail du chasseur, le fusil, le béret, qui partent dans les vignes de bon matin. On dit bon, ça, ceux-là, ils sont du cru, c'est des bons, ils y vont. Sauf que tout le gibier passe autour d'eux dans l'indifférence générale. Ils sont très bon. C'est presque Tartarin de Tarascon, hein. C'est presque deux Tartarins. Hein. Sauf que par inadvertance, il y en a un des deux qui tire un coup de fusil, qui va rebondir sur une chasse miraculeuse véritablement, puisque c'est une bécasse qui tombe et avec son bec qui transperce un lièvre et en soulevant le lièvre transpercé par la bécasse, il trouve un cep et sous le cep une truffe. Bon, c'est raconté comme ça, ça fait un peu délirant, mais en image c'est absolument fantastique. Et quand ils vont se confier, et puis tout d'un coup les animaux se mettent à parler, bon là ils commencent à se dire qu'il y a quelque chose on est dans une autre dimension. Et ce côté terrien très concret qui bascule dans une sorte de magie un peu. Et c'est vrai qu'à la campagne on aime bien aussi ces histoires-là, hein, de jeter des sorts aux animaux. Moi j'ai toujours entendu dire ça. Ça fait partie aussi du milieu. Et c'est une histoire qu'on vous racontait, ça ne me surprend pas parce que dans tout le sud de la France, voilà, c'est une histoire traditionnelle. Alors les animaux parlent et puis ils vont voir le curé qui est justement incarné par Pierre-Maurice Nouvel, Pierrot le clown depuis, et qui lui est en train de tester les vins pour sa cérémonie. Donc il n'est pas très très disponible pour le propos et bon, il passe pour des allumés et voilà. Bon, il y a une chute comme ça. Mais c'est vrai qu'en forme longue, ça ne le ferait pas pareil. Alors, je reviens un peu sur la question, court-métrage, long-métrage, vous alternez. Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question aussi de genre que vous affectionnez plus particulièrement?
Non, le court-métrage, c'est un genre particulier et c'est un genre en soi. C'est-à-dire que bon, trop souvent, on considère le court-métrage comme une carte de visite pour quelqu'un qui veut faire du long. Moi, j'ai toujours considéré que c'était des vrais films, quoi. Donc, bon, c'est sûr que je m'exprime mieux. Je me suis toujours mieux exprimé dans le court-métrage. Même si j'ai pas fait de long métrage de fiction, enfin j'ai fait un téléfilm pour Arte, 1h30, mais maintenant je fais des documentaires longs. Mais le court métrage est quelque chose de en soi, c'est du vrai cinéma, c'est du cinéma en liberté. Hier soir, en voyant mon film par exemple, je me disais que c'était complètement tapé, quoi. Je veux dire, c'est d'avoir fait ça, je sais pas si je pourrais le faire encore aujourd'hui. Et puis c'est quand même. Le court-métrage, c'est quand même le cinéma en liberté, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte économique, aucune contrainte de production parce que les gens sont mal payés ou pas payés du tout. Et on peut s'exprimer totalement au niveau cinématographique. Alors que quand on rentre dans le long-métrage, il y a beaucoup, beaucoup de contraintes, quoi, à affronter. Quoi, voilà.
Philippe, Étienne, peut-être une réaction sur ces formes-là, et puis vous avez vous-même présenté sur cette édition de 2010 un travail.
Alors, moi je rejoins tout à fait Jacques sur le fait que le court-métrage c'est un objet qui n'y a pas forcément à associer le long-métrage et le court-métrage, enfin le court-métrage qui serait l'antichambre ou la carte de visite pour faire du long-métrage. Moi, le court-métrage que j'ai présenté là, les réactions après, c'était « Et alors, à quand le long-métrage ?» Je ne sais pas si c'est la filière nécessaire à suivre. Je ne sais pas, moi j'ai envie encore de faire du court-métrage, de toute façon. Et puis, le court-métrage se déroule sur une durée de tournage bon, qui peut aller de 1 à 5, 6, 7 jours. C'est-à-dire qu'il y a une intensité qui est portée aussi, enfin le projet est porté, ou porte en tout cas l'équipe, c'est un cas particulier, enfin c'est un contexte très particulier, le long métrage, on a des horaires syndicaux, et c'est vraiment très différent, il y a un enjeu qui n'est pas du tout le même, et il me semble qu'en termes d'expression, le court métrage va chercher beaucoup plus loin. vraiment, on va chercher beaucoup plus loin. Ce que je voudrais rajouter sur le cinéma de Jacques, je pense que je connais pas mal de ses courts-métrages, c'est que quand on rencontre une histoire aussi, voilà, abracadabrantesque que celle de Jour de chasse, on peut se dire, ouais, voilà, bon, mais il y a une qualité, bon, dans la mise en scène, hein, c'est-à-dire, c'est pas plan-plan, non, il y a une qualité dans la mise en scène, dans la photo. C'est un travail de cadrage qui est extraordinaire. Dans Petit frère du Guette aussi, enfin, on s'amuse. Et on s'amuse pourquoi? Parce que tout est mis en place, sans qu'on y prête attention, forcément. Il n'y a rien qui vient heurter par une maladresse, ou bien au contraire, quoi. Et tout ça, voilà, il y a un univers. De toute façon, Jacques a un univers, effectivement. Tati l'a certainement influencé. La musique, ouais.
Alors, on évoquait les contraintes économiques, tout ça. Jacques évoquait un peu le soutien qu'a pu représenter la structure des ateliers Cervantes. À ce jour, Jindou, justement, cinéma est une structure qui accompagne et soutient, qui fait des accueils de tournage et qui a aussi un rôle là sur cet aspect-là.
Ah oui, mais le contexte est tout à fait différent. Les ACS étaient une unité de production. C'est-à-dire qu'elle avait les moyens, elle avait, y avait une véritable liberté, et justement, il y avait des prises de risques qui étaient possibles. Nous, en fait, on n'est qu'un relais, et on n'a pas la maîtrise, et puis on ne pourrait pas la voir, hein. Donc nous, ce que l'on apporte, c'est juste une aide logistique pour des sociétés de production qui souhaiteraient voir tourner en Midi-Pyrénées. Vraiment, le contexte est différent. C'est-à-dire qu'il y avait une dynamique, il y avait un contexte dans les années 80. Il y avait finalement une sorte de ferveur, aussi bien dans le fait que la gauche venait de passer au pouvoir. Forcément, on est dans les années 2010, on n'est plus dans le même contexte, ni politique, ni il n'y a plus cette dynamique. On est plus dans la peur, même dans la peur de produire des choses. Voilà. Bon, ne noircissons pas trop quand même, mais on n'est pas du tout dans le même contexte, et surtout les ateliers Cervantes, c'était une structure de production.
Jacques Miche, aujourd'hui, produire, faire du cinéma, ça se passe comment? Quels sont vos projets? Peut-être une réponse aussi, une réaction à ce qui se dit.
Moi, je crois que pour un peu remercier le Festival de Jindou, je pense que c'est important ce qu'ils font, parce que c'est même pour moi un contre-pouvoir aujourd'hui, parce que je parlais tout à l'heure d'une époque de décentralisation totale, quoi. En ce moment, on vit une époque de centralisation totale. C'est-à-dire, on va même jusqu'à mettre en doute les compétences du conseil régional par rapport à la culture. Et de toutes les associations, diffusion de cinéma, on leur sert les boulons. Je veux dire, c'est assez catastrophique, quoi. Ici, donc, à Jindou, on voit des films, ils aident quand même à la production aussi, même pas à leur projet. La situation est très difficile, quoi. Enfin, moi, j'ai mené depuis 20 ans à Toulouse, on a produit pas mal de films aussi, mais bon, c'est pas pareil, ça devient de plus en plus difficile pour avoir de l'argent. Le cinéma coûte de l'argent aussi, c'est pas comme la musique ou la peinture, quoi.
Qu'est-ce que vous produisez de ces dernières années? Quelle est votre actualité et celle des gens avec qui vous travaillez?
Déjà, on a produit le dernier film de Jean Rimonier qui avait fait ici Jacques vous la terre, qui s'appelle Rien à perdre, l'an dernier, voilà, qui est passé à l'Utopia. C'est un documentaire sur les enfants de Don Quichotte à Toulouse. Jean Rimonier, on produit un film sur Bernardo Sandoval, qui va bientôt sortir, le film est presque terminé. En ce qui me concerne, moi j'ai fait un film, je fais des documentaires scientifiques, grand public, on va dire, pour Arte surtout, depuis 10 ans, là j'ai mis de ça surtout, quoi. Donc je fais des films pour Arte. Là je vais faire un film sur le rire, donc sur la neurobiologie du rire, expliquer pourquoi l'homme rit. Je vais expliquer pourquoi le singe rit et pourquoi le rat rit aussi, parce que les rats rient. Donc il y a des chercheurs, qui aux États-Unis qui travaillent sur le rire du rat. Voilà. Et c'est un film, c'est une grande aventure parce que je vais y passer un an, quoi. En parallèle, mon long métrage est enfin écrit, donc J'ai un long métrage, c'est pas la suite du Mammouth Pobalski, mais ça se passe toujours dans un pays imaginaire. Donc, là on est parti, le scénario est écrit depuis un mois, là, on est parti en recherche de financement. Donc, si tout va bien, on le fait bientôt. Après, j'ai peut-être plein d'autres projets, mais bon, il faut toujours avoir des projets parce que c'est très difficile.
Finalement, avec ces films, ces documentaires scientifiques, vous renouez avec votre formation de départ, en fait. Hein. Et cette matière-là, vous la retravaillez, mais avec le regard d'un cinéaste. Quoi. C'est assez fréquent, finalement, de faire une première formation et puis de la laisser, de faire quelque chose de complètement différent. Et pour finir, je trouve qu'on restitue un peu la matière de ses premiers choix, ce qui veut dire qu'on n'a pas choisi non plus n'importe comment les choses. Bon, alors donc, des projets, oui, encore. Merci beaucoup d'être venu nous parler là, in situ de cette réalité actuelle. On espère que cette culture cinématographique, tout ce vivier de création va se maintenir malgré, dans l'adversité. Hein. C'est vrai pour bien d'autres formes artistiques aussi. On est dans une tension, hein, une tension sociétale, forcément, la culture, elle offre les moyens de produire, ça ressente forcément, quoi. Bien, mais merci beaucoup Jacques Mitch, Philippe, Étienne, merci beaucoup aussi. Eh bien, je crois qu'on va terminer là cette chronique. Ah non, on va accueillir dans quelques instants, on va faire une plage musicale et accueillir dans quelques instants le réalisateur Abdallah Badis qui présente aujourd'hui à 13h une production en avant-première. À tout de suite après une plage musicale. Merci.
Radio FMR, les rencontres cinéma de Jindou en direct de la 26e édition avec Monique Blanquet. Voilà, chronique numéro 6, c'est la suite et fin de ces chroniques quotidiennes qu'on a réalisées et proposées sur l'antenne de Radio FMR, sur le 89.MHz et sur le site web, donc dans le monde entier. Tous les jours à midi, ces chroniques de Jindou étaient accompagnées la 26e édition des rencontres cinéma de Jindou, à Jindou dans le Lot, c'est à la campagne, et c'est un écrin, je dirais, un lieu précieux, une bulle de convivialité, d'authenticité, et pour le cinéma qui est proposé, une bulle de qualité. Alors j'ai le plaisir d'accueillir une actualité de l'avant-première d'un film, Le Chemin Noir. C'est un documentaire réalisé par Abdallah Badis, qui est à mes côtés et qui va nous présenter un petit peu les tenants de cette production. Abdallah Badis, bonjour.
Bonjour.
Voilà, avec le téléphone, on se le passe, donc c'est pas très pratique. Vous êtes, le chemin noir, bien, ça parle de la sidérurgie, mais pas seulement. Vous êtes un ancien ouvrier de la sidérurgie lorraine, mais depuis, ensuite, vous avez développé un parcours de comédien et de metteur en scène au théâtre. Au cinéma, vous avez également joué dans Rue de Journée pour la Reine de René Alliot. Vous avez suivi des ateliers Varan et puis vous avez réalisé plusieurs documentaires. Le Chemin Noir est votre premier long métrage. Alors peut-être pouvez-vous nous présenter cette production et un peu ce parcours qui vous a amené à faire du cinéma, du théâtre, à une prise de parole, je dirais, qui était apparemment vitale.
Oui, la première chose que je voudrais dire, c'est que mon film, c'est un film que j'ai tourné avec les moyens du documentaire, mais ce que j'ai souhaité dès le début du travail, c'était faire un film qui brouille les pistes entre documentaire et fiction, de même que dans ce que dévoile, révèle le film, ça brouille les pistes entre qui est algérien et qui est français, puisque une part de moi est algérienne, une part de moi est française. Alors si je veux dire une chose sur la genèse de ce film, c'est un film qui vient de loin. Je crois que quand on fait du cinéma d'auteur, évidemment on va gratter très profond en soi, quoi que ce soit qu'on raconte après. Voilà, si je devais dire ce que c'est que la genèse de ce film, mon père a travaillé dans les usines, et mon père est reparti en Algérie avec ma mère, avec mes frères et sœurs. Et puis, sur le tard, il était malade, comme beaucoup de personnes âgées, et particulièrement si elles ont travaillé dans le type d'emploi qu'il avait. C'est-à-dire, ceux qui verront le film verront le type d'emploi que c'est. Et bon, très malade, tous mes frères et moi, frères, sœurs et moi, on était inquiets de sa santé. On voulait en savoir un peu plus, comme frères et sœurs et mon père étaient en Algérie. J'ai convaincu cette famille que l'un d'entre eux vienne en France avec mon père. Et mon père est venu donc en France, et puis moi j'ai des amis médecins, j'ai la chance d'avoir échappé au destin tout tracé normalement des fils d'Arabes. J'ai des amis médecins, j'ai des amis qui travaillent dans les hôpitaux, qui dans les radios et tout ça, et donc ils ont pu faire toutes les analyses, etc., pour déceler enfin le mal qu'il avait. Et mon père, à cette occasion-là, il était donc chez moi, il était extrêmement fatigué, ravagé par les globules blancs, envahi de globules blancs. Et puis à un moment où il était un peu l'esprit un peu réveillé, quoi. Il m'a dit: Abdallah, j'aimerais bien que tu m'emmènes voir l'usine. Et je l'ai emmené voir l'usine. Mais en chemin, je lui dis: tu sais, papa, elle n'existe plus, hein, on a tout rasé. Hein. Il dit: oui, bien sûr. Il m'a dit: oui, bien sûr, mais il n'imaginait pas qu'elle était totalement rasée. Et je l'ai amené jusque devant un endroit, un terrain vague. Aujourd'hui, quelqu'un qui y arriverait se dirait que c'était un terrain vague avec un grand panneau, Parc des Schtroumpfs. Et il me dit: mais pourquoi tu t'es arrêté ici, mon fils? Ben, je lui dis: c'était ici l'entrée de l'usine. Il me dit: mais non, tu te trompes, c'est pas ici, non. Tu te souvenais pas, tu savais pas par où j'entrais à l'usine. Et puis c'est pas l'usine, ça. Je dis: si, on a enlevé, elle a été rasée, elle a été fondue. Et il y avait face à nous une grande montagne russe. Et il m'a dit: mais non, mais ici c'est pour que les enfants viennent jouer. Et je lui ai dit: non, c'était effectivement ton entrée d'usine. Et puis on était en train de parler comme ça, moi essayant de le persuader que effectivement il n'y avait plus rien, mais qu'on était effectivement sur les lieux. Et il y a eu des petits bonhommes bleus qui sont sortis, c'était des schtroumpfs. Vous voyez, immense. Et donc, il faut se mettre à sa place, on imagine ce que c'est, quoi. Donc, il pensait avoir perdu l'esprit. Moi j'avais mon père qui tout d'un coup disparaissait. Il a fait chose que je connais très bien de lui. Il s'est raclé le fond de la gorge, il s'est repris les lunettes, il les a frottées, enfin ça indiquait une nervosité intérieure, et etc. Et puis il m'a dit: non, là allez, on rentre à la maison chez toi, là je suis fatigué. On est rentré, il n'y a pas un mot qui s'est dit, mais en tout cas à ce moment là je sais que c'est là que j'ai senti que avec moi, à côté de moi, je baladais une espèce d'énorme poubelle, un panier, une valise, et que là, le couvercle de la valise s'était ouvert là. Et dans cette valise, il y a un certain nombre de choses qui sont liées à l'usine, à d'où je viens, à l'état du monde aujourd'hui, et c'est ces choses-là que j'ai commencé à regrouper, mettre sur papier, etc. Et c'est ces choses-là qui sont à l'origine de ce film. Qui va être projeté tout à l'heure. Jeanne Doux.
Alors justement, c'est très touchant que vous évoquiez ce contexte, je vais dire, parce que le contexte actuel est assez brutal par rapport à ces questions de nationalité, d'identité nationale. Nous sommes actuellement quand même dans un pouvoir qui est plus que rigide et qui est plus que suspicieux et désobligeant, je dirais, vis-à-vis de, bah, de toute cette population d'émigrés qui est venue en France à un moment donné où on avait besoin d'eux, où on les a sollicités et pour finir, on leur a refuser une forme d'intégration, une forme de reconnaissance. Et aujourd'hui, c'est poignant. Il y a une volonté politique de mettre à bas toute cette histoire-là. Donc, ce film-là, il vous est bien sûr, c'est une histoire personnelle, mais finalement, il a une dimension plus générique, hein, qui s'adresse à ses fils de l'immigration. Aujourd'hui, quelle place vous pouvez avoir dans cette société?
Oui, en effet, dans l'écriture du film, qui a pris quand même un certain temps, parce que je crois qu'il faut du temps pour poser les choses, et puis pour construire et trouver les cadres, le cadre et la manière juste de pouvoir atteindre le public, parce que j'avais le souhait réellement de faire un film de cinéma. Faire un film de cinéma, c'est-à-dire le cinéma comme septième art, et parce que c'est, disons, pour moi, c'est quand même la moindre des choses. J'ai travaillé au théâtre, ce terrain-là de la poésie, etc., ce terrain-là me plaît parce que ça laisse des traces pour très longtemps. Et en tout cas, dans ce film, j'ai ce film où parler simplement de moi, je pense que ça présenterait pas obligatoirement d'intérêt. Si, je pourrais y mettre peut-être des belles formes, des belles images, être très habile, mais c'est un chemin qui démarre du plus intime et qui s'ouvre. En fait, il y a un double mouvement dans mon film. Il y a un mouvement comme si on prenait une toupie qui creuse au fond, c'est au fond de moi, et plus elle avance vers le fond, plus elle s'ouvre vers le haut, quoi. C'est-à-dire, plus elle monte et qu'elle s'ouvre et qu'elle brouille les pistes presque entre passé, présent. C'est le fond, c'est la disparition. Et la disparition de l'usine, la disparition du monde ouvrier, la disparition à venir ou déjà advenue de ces vieux ouvriers qui ont quand même construit la France. La question qui se pose aujourd'hui de leurs enfants qui sont là, qui sont français, bon, quelle place est-ce qu'ils ont? Et j'ai rassemblé un peu toutes ces choses-là, et puis elles sont égrenées, comme c'est un peu comme avec des fragments, on reconstituerait, vous voyez, ce qu'on a retrouvé de Pompéi, puisque c'est un peu Pompéi, quoi. Voilà, il y a quelque chose, il y a une tornade qui est tombée là-dessus, il reste presque plus rien, mais des petits restes que j'ai pu trouver ou qu'on peut trouver, bout de mosaïque qu'on peut faire. Voilà. Le film, c'est un peu ça aussi. Et donc, il est en même temps très intime et en même temps très ouvert. Et le cadre, quand j'ai tourné, le cadre était ouvert. C'est-à-dire que les personnes, nous voyant, il y a eu tout un long temps d'approche pour se faire accepter. Et puis bon, le fait d'être accepté, c'est pas compliqué. D'abord, je parle arabe. Je suis fils d'arabe. Donc, pour les vieux arabes que j'ai rencontrés, je suis comme leur fils. On est tous cousins, comme dirait, comme on dit, des ethnologues, etc. Et c'est vrai, c'est la République des cousins. Donc, on est tous fils. Donc, mon père, en plus, ayant travaillé à l'usine, beaucoup de ces personnes âgées que j'ai pu rencontrer l'ont connu. Ah bon, oui, je sais, j'ai travaillé avec lui en 52. Et puis moi, j'étais avec lui quand on a été faire une chose dans tel endroit, etc., etc. On était accrocheurs de wagons dans la scierie, sous la scierie, ou bien au fourneau. Voilà, il y en a un certain nombre qui l'ont connu. Donc j'étais tout à fait légitime pour venir recueillir leurs paroles, mais les recueillir en partageant un moment. Parce que ça m'a fait très chaud au cœur, et en le faisant partager à l'équipe qui est avec moi. C'était très important que cette équipe-là n'ait pas simplement les qualités techniques, mais qu'elle ait aussi les qualités humaines pour avancer dans ce monde-là, qui est un monde de laisser pour compte. Donc voilà. Et le cinéma, pourquoi? Parce qu'il mérite d'exister en grand, sur grand écran et au cinéma. Et le cinéma garde la mémoire de ça, la mémoire de ceux qui ont en fait tout le temps été des invisibles. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié qu'il y avait 1000 ouvriers sur 5000, qui tout d'un coup se demandent, mais pourquoi il y a des jeunes arabes, ces jeunes de banlieue, pourquoi ils sont pas en Algérie ou ailleurs? C'est l'histoire qui veut ça. L'histoire entre la France et l'Algérie, c'est une histoire d'amour. On raconte ce qu'on veut, oui, il y a eu des violences, il y a eu tout ça, mais c'est quand même, depuis l'émir Abdelkader, c'est quand même 130 ans. Il y a eu 3 départements, c'était des départements français. Moi, je suis né français, de père français, de grand-père français. Bien sûr, c'était des musulmans français d'Algérie, mais c'était la France. Donc maintenant, s'étonner de la présence de Français en France, je trouve ça très inquiétant. Et c'est vrai qu'on est dans une époque très inquiétante, où c'est quand même très important d'amener ça un petit peu sur le plateau, pour, je sais pas, c'est pas pour faire une leçon, pour pacifier. Et surtout, ne pas cacher non plus les choses dures qu'il y a pu y avoir. C'est l'histoire. Il y avait une chanson qui en fait date exactement de... du divorce franco-algérien, algéro-français, elle s'appelle « Retiens la nuit » de Johnny Hallyday. Je me souviens, mon frère était dans au FLN et il est réapparu au grand jour, il était plus jeune, hein, il avait 18 ans, il est réapparu au grand jour que quand il y a eu l'indépendance. Et l'indépendance a été fêtée dans les foyers de ma région, de même qu'elle a dû être fêtée dans tous les foyers où il y avait des Arabes, à Marseille, dans le Nord, à Saint-Étienne, autour de Toulouse, dans les mines, à l'Est, etc., un peu partout. Donc c'était la joie, et mon frère est réapparu sur des tréteaux, et pendant 2 ans, j'avais pas vu mon frère, sauf quelques nuits, ma mère me réveillait, bon, on était plein d'enfants dans la même pièce, elle réveillait pour libérer un lit au frère, et donc j'avais que ces souvenirs de nuit de mon frère. Pendant 2 ans, j'ai connu que mon frère entre un clignement d'œil, quoi. Et tout à coup, il apparaissait habillé en felaga, et qu'est-ce qu'il a chanté? Il a chanté « Retiens la nuit ». Et c'était « Retiens la nuit », chanson de Johnny Hallyday, chanson d'amour, mais tout d'un coup, elle prenait un autre sens. Aujourd'hui, pour moi, elle a un autre sens. C'était presque comme « Retiens la nuit dans laquelle on a laissé les Arabes de France.
Pas grand-chose à rajouter à ce témoignage d'Abdallah Gadis. Merci beaucoup. On voit bien toute l'émotion et tout le sens que vous avez mis dans ce document, avec bien sûr pour l'avenir peut-être un parcours au théâtre comme comédien, une autre prise de parole, hein, qui est plus immédiate. Mais la scène du théâtre est une scène, comme le disait Prospero dans la dernière pièce de Shakespeare, est une scène où tout est possible, où tout peut se dire, et ça va être de plus en plus précieux. Donc le chemin noir va être projeté là tout à l'heure à 13h à Jindou, et je pense qu'il aura un bel écho en suivant, parce que Jindou a ce rôle aussi de mettre en visibilité ses projets, ses productions, ses prises de parole, avec cet engagement de qualité, hein, c'est aussi Jindou, c'est ça. Et vraiment, ben, merci beaucoup pour votre présentation. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Vous avez été très explicite et très, 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 très direct et bien et précieux. Merci à vous. Voilà. Eh bien, Radio FMR, c'est la fin de ces chroniques vagabondes à Jindou. Nous avons été ravis d'accompagner cette 26e édition. Un grand merci aux équipes de Jindou, aux équipes de Radio FMR. Grand merci aussi au magazine culturel de Radio FMR qui nous ont accueillis tout au long de la semaine. Eh bien, au revoir, c'est la fin. C'est le dernier plan, comme on dit au cinéma. Et puis, peut-être rendez-vous à l'année prochaine pour le même chemin ensemble. Et espérons que ces chemins... sont noirs, puissent s'éclairer à un moment donné dans nos existences. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Au revoir.
Pas complètement terminé, puisque je crois que donc ce soir, c'est à partir de quelle heure?
Ah, mais ce soir, c'est en continu, là. Enfin, c'est terminé pour la chronique, mais pour D'accord. Le programme de Jindou, non. Alors, bien sûr, là, à 13h, il y a donc Le Chemin Noir, du réalisateur Abdallah Gadis. À 16h, il y a les films des ateliers. Ce sont 11 films réalisés dans le cadre d'ateliers scolaires. À 19h, il y a Vous êtes servi. C'est une avant-première d'un réalisateur belge, George Eléon. Et puis, dans le cinéma de Verdure, ce soir et jusqu'à l'aube, il y aura Une vie d'Emmanuel Bellegarde, qui est une avant-première. C'est le titre du film, c'est Pauline et François. Et puis, c'est un documentaire de Renaud Feli. À 23h30, Un homme à la mer, de Fabien Gorjac. Et ensuite, une autre avant-première, octobre, de Daniel et Diego Vega. C'est une production du Pérou. À 2h du mat, 8 des poussières, de Laurent Tessier. C'est un film français. Et ensuite, une autre avant-première, Illégale, d'Olivier Massé-Depasse, une production belge. Et pour finir, comme Philippe Etienne nous l'a signalé tout à l'heure, à 4h30 du mat, il faudra encore être là si on veut avoir droit au petit déjeuner. Ça s'appelle Sound of Noise. C'est une avant-première d'Ola Simonsson, de Johan Starnet Nilsson. Ça vient de Suède. Voilà.
Merci beaucoup.
Eh bien, Xavier, merci beaucoup.
Bah oui, bah désolé pour ces problèmes techniques pour le début, mais.
C'est pas grave.
Ça, c'est les plaisirs du direct et c'est les plaisirs d'une radio alternative. Un coup, ça marche.
Mais bien sûr.
Un coup, ça marche pas.
Voilà. Merci beaucoup. Voilà.
Eh bien, rendez-vous pour toi jeudi prochain.
Oui.
À midi, dans les impromptus. Et puis nous, le supplément week-end redevient samedi prochain avec la mort d'un réalisateur japonais, Satoshi Kon. Donc on fera une rétrospective autour de sa carrière.
Bien
très à bien. Vous. Bonne journée. Ciao.
Salut Xavier, merci. Au revoir.
Les critères. Une vie pas possible, qui n'arrive pas à s'adapter.
Ouais, j'essaie de comprendre. Je trouve ma place là-dedans.
In fact, I'm damn proud.
How you feel?
Krauser!
Écoute-moi, s'il te plaît.
l'issue des programmes sur Radio Éphémère. Donc, pas de supplément au week-end, pas de ça, c'est du sport, principalement pour des raisons de logistique cette semaine. Mais promis, j'aurai, nous sommes de retour la semaine prochaine, donc samedi, à partir de midi, pour un programme qui s'annonce quand même assez lourd et assez costaud, voire même velu. Vous écoutez Radio Éphémère 89.1 MHz. Nous cédons notre fréquence FM pour Booster FM à partir de 17h, mais vous pouvez nous suivre en continu sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net.